pas. Et je suis vraiment ravie de vous présenter quelques-unes de mes réflexions et de pouvoir en discuter avec vous. Et tout d'abord, je remercie les organisateurs de ce si important colloque. Et aussi, je veux remercier, je ne sais pas si elle est dans la salle, Sarah Abdennour, qu'elle a fait une excellente traduction de mon texte anglais. Ces dernières années, j'ai dialogué de manière très féconde avec des chercheurs français, parmi lesquels Florence Weber, spécialement Florence Weber, chercheurs qui explorent de nouvelles pistes de réflexion sociologique sur le fonctionnement de l'économie et invite tout particulièrement à étudier les points d'intersection entre activités économiques et relations intimes. Et on vient d'écouter des choses superbes et intéressantes sur ce sujet. Cet exposé s'inscrit dans la continuité du travail commencé dans mon dernier ouvrage, The Purchase of Intimacy. Ce livre aboutit à deux conclusions principales. D'abord, les théories dominantes qui évoquent une contamination réciproque entre rationalité et intimité ne permettent pas de comprendre les processus économiques. Et ensuite, ils démontrent justement les efforts permanents que les gens, que nous, mettent en œuvre pour agencer activité économique et intimité afin que les deux n'entrent pas en contradiction. Cela dit, les gens distinguent nettement les différentes combinaisons possibles entre relations intimes et activités économiques. Nous parvenons à ces conclusions à grand renfort de preuves empiriques issues de l'étude de relations de couple, de relations du care ou du soin, du fonctionnement des ménages ou encore de la loi américaine. Nous partons dans ce livre par du postulat que la compréhension de l'interpénétration des relations intimes et des transactions économiques est bloquée par un certain nombre de prénotions fausses et très répandues. Les tenants d'une vision que l'on peut qualifier, que j'appelle la théorie des mondes hostiles, estiment que cette interpénétration induit inévitablement une dégradation des relations intimes. Mon livre s'oppose à ce type de vision, mais on ne s'attaque pas qu'à la moitié du problème. La théorie des mondes hostiles postule en effet une contamination dans les deux sens, l'altération de sentiments de solidarité en vulgaire recherche d'intérêt personnel d'une part, mais aussi les effets pervers de l'introduction de sentiments dans la sphère économique, dont le fonctionnement optimal reposerait sur la rationalité en finalité. Selon cette seconde logique, seuls des marchés éloignés de toute considération sentimentale fonctionnent efficacement. La contamination tant redoutée se produit donc dans les deux sens, d'où mes recherches actuelles. Au sein d'organisations de nature économique comme les entreprises, comment concilie-t-on l'intimité ? Souvent vue comme une menace pesant sur l'efficience et la rationalité et la performance de l'institution. Quel est l'impact des relations amicales, familiales et sexuelles entre collègues sur les performances de l'organisation? Sur la question « Faut-il limiter ou encourager les relations personnelles sur le lieu du travail ?», les dirigeants et les théoriciens des organisations ont une position ambivalente. D'aucuns pensent qu'une certaine dose d'intimité entre collègues participe au bon fonctionnement de l'organisation. D'autres envisagent au contraire certaines formes d'intimité, et notamment les relations sexuelles, comme autant de grains de sel, de sable, susceptibles de ralentir. de ralentir ou de perturber l'institution, ce qui suppose que ces relations doivent être soumises à un contrôle strict. Les juristes connaissent la même ambivalence. Une certaine tradition parmi les juristes et les économistes postule le primat qui doit être accordé à l'efficience aux dépens des sentiments. Cependant, certains juristes féministes démontrent avec force les effets pervers du bannissement de l'intimité qui induit à la fois des discriminations essentiellement dirigées contre les femmes, mais qui pénaliserait également l'efficacité de l'organisation. Nous ne disposons à ce jour ni de solides théories, ni d'études empiriques sur la place et le rôle de relations intimes dans les organisations. Les théories existantes ne parviennent pas à rendre compte de deux phénomènes qui m'intéressent tout particulièrement. D'une part, pourquoi les dirigeants d'organisations économiques envisagent si souvent les relations intimes comme des menaces pesant sur la performance de l'organisation? Et d'autre part, quel est effectivement l'impact des différents types de relations interpersonnelles sur les missions de l'organisation? Le premier phénomène a pour conséquence la mise en place de mesures contre le népotisme, mais aussi l'interdiction de relations amoureuses et sexuelles, mesures qui illustrent la peur des dirigeants que les relations intimes ne créent du chaos. Pourtant, la majorité des dirigeants et des salariés s'accordent sur deux points. Premièrement, les relations intimes sont très répandues au sein des organisations économiques. Et deuxièmement, un certain degré d'intimité est même utile au fonctionnement des organisations. Comment résoudre cette contradiction entre théorie et pratique? Pour répondre à ces questions, j'examine les problèmes qui posent les relations intimes aux observateurs des organisations, problèmes d'ordre empirique, analytique ou politique. Au niveau empirique, quelles conditions favorisent leurs apparitions et dans quelle mesure perturbent-elles les performances de l'organisation? Au niveau analytique, comment et dans quelle mesure l'existence des relations intimes affecte-t-elle les relations périphériques avec les collègues ou les supérieurs hiérarchiques notamment? En termes de politique à mener, les effets de ces relations sont-ils suffisamment importants et néfastes qu'ils justifient une stricte interdiction des relations intimes, au moins des formes les plus intenses, au sein des organisations de nature économique? Il existe un large éventail de relations intimes qui varient en nature et en intensité. Je me concentre sur trois catégories de relations, les relations sexuelles, d'amitié et la parenté. Je les ai choisies non parce qu'elles seraient interchangeables ou qu'elles illustreraient des degrés divers, mais au contraire, parce qu'elles sont de nature différente et que ces différences permettent de mieux saisir l'impact sur les performances des organisations. Bien que les relations sexuelles fassent plus souvent l'objet de procès, ainsi que la une des journaux, les relations d'amitié et de parenté ont également un impact considérable sur le fonctionnement des organisations. Diverses observations empiriques laissent penser que bien souvent, les relations intimes sur le lieu de travail contribuent aux performances de l'organisation. Le défi, alors, à saisir comment les relations intimes s'articulent avec l'activité économique, dans quelles conditions et de quelle manière pénalisent-elles, améliorent-elles ou laissent-elles inchangées les performances de l'organisation? Il existe quatre types d'argumentaires parmi les opposants aux relations intimes. Dans la première version, la relation intime est source de déconcentration et de dissipation. ce qui nuit à la performance de l'organisation. Dans cette logique, un couple serait susceptible de faire l'amour sur les heures de travail, ou encore de faire un usage personnel de ressources de l'entreprise. Mais cela ne concerne pas seulement les relations amoureuses. Si on suit cette logique, de vieux amis pourraient aussi être soupçonnés de privilégier leurs relations d'amitié au détriment des ordres émanant de leurs supérieurs hiérarchiques. La seconde version de l'argumentaire anti-intimité concerne l'appariement entre offre et demande de travail. On estime ici qu'un appariement fondé sur les relations personnelles plutôt que répondant à un examen du capital humain impliquera une productivité inférieure. Ainsi, quand un patron donne une poste à sa fille, il écarte des candidats plus qualifiés. Dans la troisième version, l'intimité est source d'injustice puisqu'elle perturbe le système institutionnel des récompenses en indexant les promotions et les rémunérations sur le relationnel plutôt que sur le mérite. Des proches ou des conjoints se protégeront au détriment des salariés plus qualifiés. Enfin, l'intimité peut peser sur le fonctionnement de l'organisation quand elle prend la forme d'une relation d'exploitation, dans les cas d'harcèlement sexuel, par exemple. Ces inquiétudes se matérialisent souvent sous forme de règles anti-intimité au niveau des organisations. Règles pensées comme autant de moyens de lutte contre la contamination engendrée par les relations intimes. La juriste Vicky Schultz, une spécialiste de la question, a repéré un essor considérable aux États-Unis de ce qu'elle appelle l'aseptisation, sanitization, aseptisation des lieux de travail et qu'elle définit comme la régulation des relations intimes. Régulation qui va bien au-delà des frontières juridiques du harcèlement sexuel. Les formes de cette aseptisation sont variées, allant des politiques de non-fraternisation qui interdisent toute relation amoureuse entre employés et supérieurs hiérarchiques, à des politiques de date and tell qui obligent les salariés qui s'engagent dans une relation à le révéler à la direction, en s'exposant ainsi au contrôle, au blâme ou à la mutation, ou encore à des politiques qui, la troisième, des politiques qui enjoignent les salariés en passe de se mettre en couple à signer un contrat, parfois appelé contrat de Cupidon, Cupid's Contract. Il existe. Et parallèlement, depuis les années 1980, les employeurs américains, particulièrement dans le secteur public, ont de plus en plus tendance à appliquer les règles anti-népotisme et anti-conjoint. En outre, les procès qui contestaient les interdictions faites à des conjoints de partager le même lieu de travail ont généralement échoué. La position selon laquelle l'intimité, l'amitié et les liens de parenté menacent l'efficacité de l'organisation apparaît tenable en apparence. Et les personnes engagées dans des relations intimes peuvent parfois être amenées à user de leur position dans l'organisation à des fins privées, et cela au détriment de l'efficacité du collectif. Toutefois, des éléments empiriques amènent plutôt à penser que ces relations intimes augmentent le bien-être des salariés et finalement améliorent les performances de l'organisation plutôt que l'inverse. Et il y a beaucoup d'exemples de ça que je ne vais pas évidemment vous raconter maintenant, mais simplement de dire que l'entreprise familiale constitue une preuve empirique décisive qui remet en cause l'idée d'incompatibilité entre intimité et efficience économique. En effet, ces entreprises affichent de très bonnes performances, peut-être même meilleures que les entreprises sans base familiale. Elles ont des taux de turnover plus faible et propose des services tels que des crèches, des bourses pour les enfants de salariés ou encore des mesures d'intéressement aux bénéfices. En outre, et cela est tout à fait significatif, certains observateurs maintenant estiment que les entreprises familiales auront plus de chances de survivre à la crise économique actuelle. La menace qui pèse sur les performances des organisations ne réside pas donc dans l'existence ou non de relations intimes. Le défi consiste plutôt à identifier des configurations spécifiques qui induisent des injustices ou des mauvaises performances. Il faudrait au minimum analyser les triades au sein desquels au moins deux des trois membres partagent une relation intime, comme par exemple les interactions entre un couple et un patron commun aux deux conjoints. On pourrait regarder notamment en quoi une relation proche entre un patron et sa secrétaire influe sur les interactions entre le patron et ses supérieurs hiérarchiques, ses collègues ou ses autres subalternes. Ainsi, quelles sont les configurations qui tirent profit des relations intimes et quelles sont celles qui en pâtissent? Cette question constitue à elle seule tout un programme de recherche. Et de manière surprenante et assez décevante, les travaux portant sur les organisations se sont davantage concentrés sur la seule question de l'existence ou non des différents types de relations intimes et non sur la question de l'articulation entre ces relations et le reste de l'environnement social. Nous ne disposons ainsi que de très peu d'observations empiriques sur le rôle de tiers parties. Par exemple quoi? Par exemple, la réaction des collègues face à une situation d'harcèlement sexuel ou l'impact d'une mise en couple sur les relations des conjoints avec les supérieurs, les collègues et les subalternes, notamment du fait du recouvrement entre intimité et partage d'informations, ou encore l'impact d'une meilleure connaissance mutuelle et d'une entraide entre collègues sur les performances de l'équipe. Exemple, un adjoint qui peut compenser la fatigue de son supérieur qui connaît un mauvais jour, ou un collègue qui en remplace un autre qui a dû s'absenter pour une urgence familiale, cet enfant malade dont vous parliez plus tôt. Si mes hypothèses sont bonnes, on devrait observer dans de nombreux cas un effet positif des relations de parenté, d'amitié ou d'intimité sexuelle sur la contribution des personnes concernées aux efforts et à l'efficacité du collectif. Nous possédons des éléments qui permettent d'étayer deux conclusions. D'abord, la question pertinente n'est pas tant celle de l'existence ou non de relations intimes, mais celle de l'impact sur les tiers. Et ensuite, dans de nombreuses situations, l'intimité améliore l'efficacité de l'organisation. Il ne s'agit bien sûr pas de dire que les relations intimes entraînent systématiquement, toujours, de manière uniforme, une amélioration des performances. Parfois, c'est le cas. Elles portent atteinte à l'efficacité de l'organisation. Le défi, et je suis presque fini, le défi posé aux observateurs des faits économiques ainsi qu'aux juristes et d'y identifier comment et pourquoi, dans chacun des cas, ça se passe. Ma conviction est que nous n'arriverons que si nous regardons au-delà de l'interaction entre les deux individus concernés et si nous replaçons cette relation, qu'elle soit intime ou pas, dans des configurations plus larges. Je vous remercie et je m'excuse Je dois confesser que c'est un mélange d'un accent américain de mon travail aux États-Unis, mais je suis argentine. Alors, si vous écoutez un espagnol mêlé au français.